La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous ici dans ce lieu de prière. Bienvenue à toute la famille qui s'est présentée ce matin avec les deux petits-enfants qui vont recevoir le baptême ici, deux frères et sœurs qui vont nous donner la joie de partager ce moment important pour nous. Bienvenue à vous et merci d'être ensemble dans ce lieu pour nous faire partager votre joie. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par le biais des réseaux sociaux et d'Internet. Nous sommes en communion les uns avec les autres, même si nous sommes séparés par la distance, nous sommes ensemble. Ce matin, nous avons trois musiciens avec nous et vous entendrez donc avec Sarah Kim à l'orgue, un hautbois et une soprane qui seront avec nous et que nous pourrons tout à l'heure saluer si vous le souhaitez à la fin du culte. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin avec d'ailleurs un hautbois d'amour. Je trouve le mot très beau, je ne pouvais pas m'empêcher de vous le partager. Voilà. Nous avons donc des beaux instruments ce matin qui nous accompagnent. Merci beaucoup d'être là. Nous allons commencer ce temps de culte avec un premier répond qui se trouve dans les psautiers français. Donc, dans les psautiers français, vous avez toute la liturgie avec les réponds du culte qui sont inscrits au tout début avec la liturgie. Je vous invite à vous lever pour nous réunir ensemble dans le chant. Je vous invite à la louange. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez Dieu, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chantons notre louange à notre tour avec le psaume 8, les strophes 1, 2, 3 et 6. 1, 2, 3 et 6. écoutons la volonté du Seigneur pour nous. Dans les Écritures, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Que ces paroles nous accompagnent et nous guident dans notre vie. Dans le prophète Ésaïe, il est écrit « Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas, Éternel, et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Que cette prière s'unisse à la nôtre pour retrouver le chemin de la parole de Dieu. Levons-nous, frères et sœurs, pour recevoir la grâce sur nos vies, la grâce renouvelée sans cesse. Dans ce même prophète Ésaïe, il est écrit « Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. » Voilà, je vais vous inviter à vous asseoir pour le moment et je vais inviter Anne-Charlotte et Quentin à me rejoindre. Venez, venez. Alors, là, c'est le super papa qui porte deux enfants en même temps, bravo, hein. Anne-Charlotte et Quentin, vous avez demandé le baptême pour votre fils et pour votre fille. Avec les parrains et marraines qui sont là, j'imagine. Vous pouvez donc me rejoindre, alors peut-être venez, voilà. Voilà. Notre Église aujourd'hui accueille votre souhait avec une grande joie et nous partageons avec vous ce bonheur que vous partagez là ce matin dans ce lieu. Merci. Je vous invite à confesser notre foi ensemble avant le baptême de ces deux petits-enfants et je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, nous croyons en toi, source de vie, qui enfante le monde et te manifestes de diverses manières, au cœur de nos expériences de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi, parole de vie, qui te dit dans nos quêtes de sens, nos recherches spirituelles, nos remises en question, et dans les non-savoirs qui habitent les femmes, les hommes et les enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi, effusion de vie, qui épouse nos désirs de mutualité, de réciprocité, de communion dans nos engagements de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi, qui suscite une ecclésia où femmes, hommes et enfants reçoivent, vivent et célèbrent librement leur foi. Aujourd'hui, nous croyons en toi qui accueille le don suprême de chaque femme, homme et enfant dans la plénitude de ta vie. Amen. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Approchez, venez près de moi. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, ce sont deux enfants avec des familles catholiques et protestantes qui vont être baptisés ici. Et nous sommes dans un élan œcuménique ce matin, avec tous ceux qui se réunissent dans le même baptême, car il faut réaffirmer sans cesse que nous avons des lieux de communion extrêmement importants, comme le baptême l'est. Ainsi, ces petits enfants vont être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et où qu'ils aillent, dans quelque église chrétienne qu'ils soient, ils seront reconnus à leur juste place avec cet accueil inconditionnel de Dieu dont nous allons manifester maintenant le signe. Vos enfants vont être baptisés au nom du Père qui leur donne le souffle de vie. Ils vont être baptisés au nom du Fils, Jésus-Christ mort et ressuscité pour eux et qui les appelle à son service. Ils vont être baptisés au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en eux, c'est notre souhait, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici dans ce baptistère et c'est de l'eau tout à fait ordinaire. En effet, il n'y a rien de magique dans un baptême. Il y a quelque chose de l'ordre du sacrement, une parole unie à un geste, une parole qui rend le geste et qui rend cette eau signifiante pour la vie de ses enfants et de toute leur famille, et pour nous tous ici, puisqu'il nous rappelle notre propre baptême. Je vais maintenant baptiser peut-être d'abord le grand garçon, qui est donc l'aîné. Tu veux qu'on commence par ton petit ours, là? Non, tu veux pas? Je ne sais pas s'il porterait son ours au baptême. Alors, voilà, vous allez venir avec moi. Quel prénom avez-vous choisi pour votre fils ?
Lazare.
Lazare. Merci, merci, Charbel. Lazare, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Lazare, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait une personne qui prenait la parole pour... D'accord. Alors, je vais maintenant vous inviter à me dire le prénom que vous avez choisi pour votre fille.
Garance.
Garance, ça va? Oui. Ah oui, très bien. Alors on y va. Viens par là. Voilà. Vous pouvez la pencher vraiment comme ça? Chacun a sa technique. Garance, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Garance, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Elle est très très contente, hein. Tu as vu Lazare, toi aussi? Et je vais inviter maintenant le parrain de Garance qui va partager avec nous un mot qu'il a préparé.
Oui, ça va aller. Seigneur, je te confie Garance. Veille sur elle comme tu l'as fait pour nous et aide-la tout au long de sa vie dans son chemin de foi. Garance, tu commences aujourd'hui ta journée auprès de Dieu. Comme ton parrain a su le faire pour moi il y a 27 ans, je m'engage à être ton soutien dans ton cheminement et à honorer ce lien privilégié qui désormais nous unit.
Garance Lazare, nous vous souhaitons de croire, de remettre en question et de trouver votre propre chemin. Nous serons là pour vous épauler, vos parrains, marraines et familles aussi. Ce baptême est un héritage et un cadeau que nous souhaitons vous transmettre, mais nous vous laisserons le choix de l'usage. Que votre route soit riche d'expériences et que le Seigneur vous anime et vous porte.
Merci beaucoup à vous. Je vais maintenant m'avancer dans l'assemblée. Est-ce que tu veux venir avec moi, Garance? Tu veux bien?
Oui, oh, bon, oui.
Il y a des jours où on a vraiment de la chance de faire ce ministère. Hein. Tu viens, Lazare? Tu viens avec ta petite sœur? Peut-être avec papa, hein, y a pas de... Voilà, je vous invite à la prière. Alors ça, c'est après. Toi, quand tu seras un petit peu plus grande, on fera ça. Éternel, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Lazare et pour Garance, qui viennent de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour eux et pour leurs proches. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Je vous invite à chanter le cantique 204, les strophes 1 et 2. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons entrer dans le temps de l'écoute de la parole. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, j'ai choisi de lire avec vous ce passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 12, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim ? Lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu ?» et mangea les pains de proposition, que ni lui ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je vous invite à chanter le cantique 222. Nous prions ensemble. Éternel, bénis notre lecture et notre écoute, permet que nous soyons attentifs à ce qui est écrit dans la Bible, non pas pour en faire une loi intangible qui contraint les hommes et les femmes de notre génération, mais pour en faire une parole de vie qui libère chacun et qui nous permettent de vivre en alliance avec toi. Amen. Certaines choses nous semblent dérisoires, quand d'autres que nous leur accordent une grande importance. Nous ne tenons pas les mêmes choses pour sacrées, et c'est de là que viennent nombre de querelles religieuses. Alors, que devons-nous tenir pour sacré dans nos vies? D'aucuns diront immédiatement la vie elle-même. D'autres penseront que seul Dieu est sacré. Et d'autres encore diront que c'est la vie devant Dieu qui est sacrée. C'est cette alliance. La Bible affirme que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'inverse. Mais cela veut-il dire pour autant que l'on peut faire sabbat seulement quand on en a besoin? En d'autres termes, les rites que les hommes se donnent dans les religions ne sont-ils qu'optionnels ou ont-ils une réelle fonction dans la relation que les êtres humains entretiennent avec le divin et par conséquent avec les autres êtres humains? Nous sommes ici rassemblés ce matin dans ce temple avec des rites différents dans notre pratique religieuse selon qu'on est catholique ou protestant, selon qu'on vient aussi peut-être d'autres confessions encore que j'ignore, mais en tout cas, nous avons tous une culture religieuse qui nous a formés et il est possible que ces rites nous habitent encore profondément. Aujourd'hui, nous avons baptisé deux petits-enfants qui appartiennent à une famille dans laquelle catholiques et protestants vivent ensemble malgré ces rites différents. Quelle valeur auront ces systèmes religieux dans la vie de ces deux petits baptisés? Quand ces enfants seront devenus grands, ces gestes et ces paroles que nous avons posés aujourd'hui seront-ils compris dans l'esprit dans lequel nous les avons posés? Comment faire son chemin entre tradition religieuse et présent de la foi? Comment faire son chemin et comment accorder dans sa vie les héritages multiples dont nous sommes les dépositaires? Dans cette question que pose l'évangile de Matthieu dans ce passage, Jésus ne reprend pas ses disciples qui arrachent les épis de blé du champ qu'ils traversent. Pourtant, lui aussi est juif. Quelle importance, ce ne sont que quelques grains de blé, me direz-vous. Mais c'est le jour du sabbat. Et ce n'est pas un détail pour quelqu'un d'observant. L'activité d'arracher les épis est apparentée à celle du glanage ou de la moisson. Ces deux activités sont interdites au moment du sabbat, selon la loi écrite dans la Torah. Par qui sont-elles interdites? Par les Écritures mêmes, et donc par la tradition écrite sur laquelle la religion de Jésus est fondée. Cependant, cette tradition n'est pas monolithique et il existe plusieurs façons de justifier cette observance du sabbat dans la Bible même. Les textes ne concordent pas toujours. La première est dans l'Exode. « Vous observerez mes sabbats, ce sera un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous rend saint. » Et la seconde est dans le Deutéronome. Le septième jour, c'est le sabbat pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main forte. Dans la première version, le sabbat est un signe qui met à part le peuple de Dieu, alors que dans la seconde, le sabbat est un mémorial qui met en relation le peuple de Dieu avec les autres vivants, hommes ou bêtes, et de façon particulière, avec une bienveillance particulière. Pour le même rite, deux justifications différentes coexistent et peuvent donner des conséquences pratiques contraires. Soit on respecte le sabbat pour être séparé des autres, pour montrer qu'on appartient à un groupe particulier mis à part pour Dieu. Soit on respecte le sabbat pour se souvenir du cadeau qu'il a été pour soi, afin d'en faire bénéficier les autres. Nous avons là deux compréhensions de la religion différentes. D'un côté, un rite offert à Dieu en sacrifice et qui place le croyant parmi les saints, et de l'autre, un rite réservé pour régler sa vie sur une certaine éthique et qui mène à la compassion. Quel saint, en effet, se soucierait de la fatigue d'un âne ? Il a bien mieux à faire. Quel être faisant partie des purs se soucierait de l'immigré qui représente l'hétérodoxie par excellence pour quelqu'un qui se réclame d'un peuple saint ? Jésus va réduire cette antinomie entre sacrifice et compassion en citant un exemple de l'Écriture qui montre une exception qui vaut pour règle. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition que ni lui ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls, avaient la permission de manger ? Jésus cite ici un passage du premier livre de Samuel au chapitre 21, dans lequel, en effet, David se nourrit, avec les jeunes gens qui l'accompagnent, des pains normalement consacrés au rituel du temple. C'est un peu comme si, en entrant affamé dans une église catholique, on ouvrait le tabernacle pour manger les hosties consacrées qui s'y trouvent. Ce serait un sacrilège du point de vue de la religion, mais une exception nécessaire du point de vue de la survie, peut-être. Deux systèmes de valeurs religieuses s'affrontent ici. Une stricte observance d'un côté et une observance raisonnée de l'autre. Mais dans les deux cas, le rite existe bien et a une très grande valeur sacrée. Même et surtout, quand il est transgressé au profit de l'esprit qui le sous-tend. C'est au nom de la compassion que le respect du sabbat est sacré, et c'est au nom de cette compassion qu'il faut parfois le transgresser pour rester dans l'esprit de la loi. Étrange paradoxe que celui d'une loi reconnue sacrée précisément parce qu'elle peut se mettre au service du profane sans perdre son sens. Ce qu'explique Jésus ici, c'est que la loi et les rites qu'elle édicte ne sont pas sacrés pour rendre tout sacré dans l'espace profane. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des espaces qui sont déclarés sacrés, qui sont réservés, comme par exemple l'assemblée de ce matin qui rassemble le temps d'un culte tous ceux qui viennent prier le Seigneur. Ou l'Église, quand elle est consacrée, comme le sont les Églises catholiques. Ou l'espace où Moïse retire ses sandales devant le buisson ardent et qui devient, par ce seul geste, l'espace d'une prière entre lui et le divin. Si tout était sacré partout et en tout temps, il n'y aurait plus rien de sacré, car tout se vaudrait alors. La loi ménage des moments et des lieux pour que le sacré n'envahisse pas tout, et qu'ainsi, dans sa position séparée, le sacré fasse signe au profane, qu'il puisse s'adresser à lui. Si l'architecture des églises fait encore signe dans nos villes, c'est parce qu'elle n'est pas celle des constructions profanes. Et si à Oxford et à Canterbury, l'architecture des universités se confond avec celle des églises, c'est précisément parce que le sacré tenait l'enseignement des collèges sous son autorité. Quand Calvin a voulu faire de Genève une ville sainte, il en a été chassé, tant la vie y est devenue impossible, faute de pouvoir vivre de façon profane et détachée de la religion. il n'y avait plus de place du tout pour le profane. Comme tous les secteurs de la vie étaient régentés par la religion, il en résulta un ascétisme impossible à supporter. Les révoltes actuelles contre les théocraties, qui placent la vie entière sous l'autorité de lois sacrées, relèvent de ce même type de résistance contre l'envahissement du sacré. Si tout est à Dieu, que reste-t-il à l'humain ? Dans l'évangile de Matthieu, les pharisiens sont pointés du doigt comme des séparés. La racine hébraïque, d'ailleurs, donne pharisien. Comme des partisans de la pureté. Les recherches historiques sur le judaïsme ancien nous ont montré qu'ils étaient avant tout des religieux qui mettaient l'accent sur l'étude des Écritures et que pour eux, le sabbat devait être vécu comme l'Exode le disait, comme un signe de la sainteté de Dieu sur les hommes. Ce conflit sur la place du sacré est constant dans cet évangile de Matthieu et les pharisiens sont la cible privilégiée des attaques du christianisme primitif. Il faut dire qu'ils assimilent la sagesse à la loi et que non contents d'étudier la loi écrite, ils développent une loi orale à partir de leurs commentaires et l'élèvent au-dessus de la loi écrite. On les juge alors hypocrites et travestissant la loi écrite, comme s'ils voulaient la dévoyer, alors que leur motivation est autre. La loi écrite permettait originellement aux prêtres du temple de savoir séparer le pur et l'impur. Dans la logique pharisienne, le système de commentaires de la loi écrite produit une loi orale qui entoure, comme une haie protectrice, la loi de Moïse afin qu'elle ne court pas le risque d'être transgressée. Il faut imaginer que nous sommes à une époque quand le pharisianisme devient très très présent, où le temple lui-même n'est plus, et où il y a donc un problème énorme pour savoir où se tient le sacré. Il y a donc, avec les pharisiens, une loi autour de la loi. Les spécialistes de la loi, comme les appellent les évangiles, vont devenir plus légalistes que ce qu'exige la Torah, et leur zèle dans la prévention de la transgression va devenir caricatural. Surtout aux yeux des premiers chrétiens qui, par définition, s'accommodent mal d'une telle rigueur puisqu'ils vont faire église avec des personnes venant du judaïsme, mais aussi du paganisme, mélangeant ainsi le pur et l'impur. Toutes ces querelles de pratiques semblent bien dérisoires dans notre monde d'aujourd'hui, et l'on a tout fait de disqualifier les rites et les observances religieuses en méprisant leurs conséquences, sans se demander ce qu'ils apportent à notre vie profane et comment le religieux peut nourrir notre vie. Jésus dit aux pharisiens qui mettent en cause la transgression de ses disciples « Il y a ici plus grand que le temple ». Il sous-entend que c'est la vie même qui est devenue le temple de Dieu, que c'est le corps de ses disciples qui est le temple où règne Dieu et que réduire sa religion à un espace comme le temple, c'est méconnaître la portée de la loi de Moïse. Et faire du monde entier un temple où tout serait sacré est aussi une erreur. Il y a de l'humain dans ce sacré. En effet, les commandements de Dieu ne sont pas énoncés pour être gardés et vénérés, mais pour être mis en pratique dans une vie où il est nécessaire de faire des choix. C'est cette part humaine que défend Jésus. La pause que nous faisons ensemble dans nos vies pour nous plonger dans des textes anciens et souvent énigmatiques ce matin même, dans ce temps de culte, n'est pas une stricte observance. Il n'y a d'ailleurs pas d'obligation de culte dans nos églises protestantes. Parce que venir au culte devrait toujours être un choix libre, un élan vers Dieu. Les gestes que nous avons faits pour baptiser les enfants qui sont là ne sont pas magiques et surnaturels et ne donneront pas automatiquement la foi à ceux qui le reçoivent.
Il ne faut donc pas leur accorder plus de sacré qu'ils n'ont en réalité. Pourtant, dans ce moment, ici, ce matin, sans cet espace particulier que nous vivons ici ensemble, sans ces baptêmes, la vie ne serait pas tout à fait la même. Sans les rites qui nous rassemblent et dont nous pourrions très bien nous passer, car beaucoup de nos contemporains s'en passent très bien, notre vie ne serait pas la même. Notre Église n'existerait pas de la même façon. Ces rites sont des langages qui nous modèlent, qui nous cultivent, qui nous apprennent à vivre ensemble dans une façon très particulière qui nous est donnée. Sans les cantiques anciens qui nous lient aux générations qui nous ont précédés, nous n'aurions pas le même lien de génération en génération. Tous ces éléments pourraient être assimilés à des éléments de tradition, et ils le sont, qui conservent et gardent la religion comme la haie des pharisiens garde la loi de Moïse, en quelque sorte. On pourrait y voir un conservatoire qui préserve un trésor transmis par les ancêtres, mais il n'en est rien. Tous les rites et toutes les pratiques des églises sont datés et ont été modifiés à chaque époque pour pouvoir continuer à parler de ce qui est sacré dans nos vies à chaque moment et à le cultiver. Les cantiques datent de l'époque du réveil ici. Les psaumes de l'époque de la Réforme, et évidemment, ils dataient déjà de l'époque du psalmiste. Mais avec des accommodements non négligeables, ils sont devenus nos psaumes d'aujourd'hui. La liturgie du baptême reprend des éléments anciens dans une rédaction des années 80. Et l'espace même de ce temple est un millefeuille d'époque et de traditions artistiques, religieuses, politiques et philosophiques très variées. Ce qui est sacré est indicible. Et nous le savons dans nos vies, il est des choses qui nous tirent les larmes, des choses qui nous émeuvent au plus profond de nous parce que nous n'arrivons pas à les exprimer tant elles sont profondes pour nous, tant elles nous forment, tant elles sont sacrées. Ce qui est sacré est indicible, oui. Comme cette figure du Fils de l'homme qui apparaît dans la littérature apocalyptique pour parler du Messie, que personne ne connaît, que tout le monde attend et dont personne ne sait comment dire qui il est. Jésus reprend à son compte ce Fils de l'homme pour faire comprendre que le temps de Dieu n'est pas arrêté dans la loi, dans les rites, dans tout ce que les hommes font pour essayer de dire Dieu, mais toujours dans une dynamique créatrice de la vie voulue par Dieu. Le Fils de l'homme est maître du sabbat, dit Jésus. Avec Jésus, Dieu tout proche donne leur signification aux lois et aux rites. Il rappelle qu'il est là, et comme nous avons une mauvaise mémoire, et comme notre vie va vite, il faut parfois s'arrêter pour nous en rendre compte. C'est le sens de cette halte ce matin. Nous rendre compte de la naissance de deux enfants comme des cadeaux incroyables, immérités et impossibles à dire complètement. Nous sommes ici pour nous rappeler cette épaisseur, cette profondeur d'humanité que nous donne ce Dieu qui nous aime, en se présentant à nous comme celui qui veille sur nous et qui donne du prix à nos vies, quelles qu'elles soient. C'est la foi qui donne son importance à la langue liturgique et religieuse. Il ne faut pas inverser les choses. Les rites ne tournent pas tout seuls à vide sur eux-mêmes. Sans cette foi, nos pratiques sont vides. Nos rites sont nos langages pour dire l'indicible de cette relation au divin qui nous met en route. Alors pour les enfants qui vont grandir dans une culture faite de rites catholiques et protestants, souhaitons que toujours, ils apprennent auprès des passeurs de tradition, quels qu'ils soient, témoins du Christ, que la valeur de ces langages que sont les religions vient de ce qu'ils sont habités par la foi dans un Dieu qui les aime avant tout. Amen. Merci pour nous avoir fait partager cette création. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 172. Célébrons l'Éternel, les strophes 1, 2, 3, 4. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces.
Alors, bonjour, je m'appelle Alain-Pierre Reynaud, je suis au conseil presbytéral comme nouveau trésorier. Merci. Non, bon, je ne prends pas le micro parce que. Merci. Merci mille fois. Voilà, donc aujourd'hui, il y a quelques annonces. D'abord, merci pour ces magnifiques paroles prononcées par Béatrice et puis cette magnifique musique, sentez si bien. Ça a été vraiment un moment rare. Alors, si vous voulez continuer sur ce chemin, à 12h, rendez-vous 1 rue de l'Oratoire pour aller avec Béatrice au musée Beaubourg, où vous visiterez le mur des objets collectionnés par André Breton. Ce serait une balade autour du surréalisme avec... Pardon. avec Agnès Anguiziel de la Baumel, qui est un ancien conservatrice du musée, et Béatrice. Donc, départ, pour ceux qui sont intéressés, 1 rue de l'Oratoire à midi. Ensuite, vous avez le lundi 10 octobre, il y a toujours le groupe protestant des artistes qui se réunit de 10h à 12h30. C'est l'atelier peinture, et puis le groupe de grec biblique, de 19h à 20h30 à la maison presbytérale. Donc ça, c'est le lundi 10 octobre. Le mercredi 12, on vous attend très nombreux pour écouter le théologien et psychanalyste Eugène Dreverman. Ce sera à 19h au Temple, et il nous présentera son nouveau livre, Le secret de Jésus, expliqué aux jeunes. Rien que le titre est attirant. Jeudi 13 octobre, pause spirituelle de 12h30 à 10h30 au Temple, avec Agnès Adeline Schaeffer. Et samedi, Gilles Castelnau vous initiera à la lecture de l'hébreu biblique de 10h à 11h à la maison presbytérale. Et vous aurez le culte d'action de grâce à 14h au temple. Et enfin, le premier concert spirituel de la saison qui aura lieu de 18h à 19h. Maintenant, je voudrais vous dire un mot sur les dons. Vous savez que le temple fonctionne uniquement grâce à vos dons. Dons à travers la quête, dons que certains font. Grâce à ces dons, on fait fonctionner le temple, on permet aux pasteurs de vivre et on arrive à financer de très belles choses comme ce que vous avez entendu ce matin. Ça coûte un peu d'argent. Les frais globaux d'un temple, comme l'oratoire, c'est à peu près 1 000 euros par jour. Pour cela, il y a vous. Et encore vous. Voilà. Donc, je fais un appel pour vous mobiliser. Je sais que vous êtes extrêmement généreux, que vous avez déjà donné beaucoup. Mais, s'il vous plaît, ne relâchez pas vos efforts. Lorsqu'on regarde la tendance des dons, et pas uniquement pour le temple, hein, pour l'ensemble des fondations et des associations, on observe, sur 12 mois glissants, à peu près une baisse de 30% des dons, en volume général. Alors pourquoi? Sans doute parce que ça a été fléché sur d'autres causes qui sont très importantes, comme l'épidémie, la guerre en Ukraine, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ce fléchissement. Et ce fléchissement, pour l'instant, tout se passe bien. Mais s'il continuait, pourrait mettre en difficulté beaucoup d'associations, y compris nous. Voilà. Donc, appel aux dons joyeux. Secouez vos bourses et vos breloques et donnez. Merci.
Voilà, c'est le moment de l'offrande. Et donc, je rappelle que pour celles et ceux qui veulent se joindre à nous pour la visite à Beaubourg, pour les paroles d'amour, vous pouvez vous présenter au 1 rue de l'Oratoire, à la petite porte là de la rue de l'Oratoire, pour nous rejoindre tout à l'heure. Et nous partirons vers Beaubourg. Merci.
Voilà, je voulais saluer particulièrement tous nos amis qui sont à la Grande Motte aujourd'hui dans les journées Évangile et Liberté. C'est un rassemblement qui a lieu tous les ans et qui permet à tous ceux qui partagent le goût de cette théologie libérale de pouvoir se rassembler et d'avoir une sorte d'université d'automne en quelque sorte pour discuter de théologie et de théologie libérale particulièrement. Donc Agnès Adeline Schaeffer, ma consœur, a prêché ce matin là-bas à la Grande Motte et Aurore, notre présidente, est aussi sur place. Et donc nous aurons sans doute des retours de ce séminaire Évangile et Liberté. Une revue très très bien, hein. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite à la prière. Éternel, pour les petits enfants de ce matin, sois avec nous pour que nous soyons sur leur chemin, toujours dans ton amour et ta bienveillance à leur égard. Permets que nous soyons des lieux d'accueil quand nous sommes Église, quand nous sommes assemblés en ton nom, que nous soyons toujours accueillants pour eux et qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires pour leur spiritualité de tous les jours au sein même de ces pauses que nous organisons ensemble pour nous remettre à ton écoute. Permets que ce sabbat que tu nous donnes à tous soit le lieu où nous puissions revenir vers toi, nous souvenir avec reconnaissance de tout ce que tu nous donnes dans nos vies et déposer devant toi tout ce que nous ne pouvons pas changer. Éternel, nous te prions pour tous ceux, toutes celles qui se battent aujourd'hui contre des régimes qui utilisent la religion pour mettre du sacré là où il n'y a pas de lieu d'y en avoir, pour contraindre des hommes et des femmes et des enfants à vivre selon des normes qui les empêchent de développer leur vie, leur liberté. Permets, Seigneur, que nous puissions être de ceux qui cultivent cette liberté et que jamais ton nom ne soit employé à tort. Que nous n'usurpions pas notre rôle. Nous ne sommes que des passeurs. C'est toi qui es Dieu pour nous. Nous te remettons, Éternel, nos communautés, tous les courants qui la traversent, tous ceux qui cherchent, tous ceux qui ont besoin de lieux comme celui-là pour pouvoir trouver une route dans leur vie et se sentir accompagné par toi. Permets, Seigneur, que dans l'adversité de la vie, nous puissions sans cesse croire que tu es à nos côtés. Ensemble, nous te disons, comme des enfants confiants en leur Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Frères et sœurs, le temps de cette halte où nous avons été heureux ensemble sous le regard de Dieu avec ses deux petits-enfants se termine. Mais ce temps a sa prolongation dans vos vies, dans ce que vous vivrez dans les jours qui viennent. Vous pourrez partager ce que vous avez reçu. Vous pourrez dire au monde qu'il y a un Dieu qui nous aime. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen.